18h, 19h, c'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est 18h et en ce lundi 3 mai, vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne de Radio U. Ce soir, nous vous emmenons à Augan, dans le Morbihan, dans le cadre de l'alimentation, autrement une série de reportages en coproduction avec la CORLAB, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne. Nous parlerons aussi initiative associative avec la Pince, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette friperie associative montée en 2013 déjà. Un reportage murmure.org d'Emeline Huguin vous éclairera. Mais commençons tout de suite à parler art et philosophie. La philosophie à réserver aux érudits, aux sachants, aux intellectuels? Eh bien, absolument pas, répond Myriam Mécoire de l'association L'Écume, qui prouve le contraire et propose des ateliers philo pour différents publics. Et oui, pour elle, il ne faut pas laisser la philo à ceux qui veulent la garder pour eux. Morgane a reçu cet activiste de la philosophie dans nos studios, c'était il y a peu, on vous laisse écouter.
Comment l'art peut-il aider à mieux nous connaître? C'est le thème du prochain atelier en ligne que propose le Musée des Beaux-Arts le 4 mai prochain. Dans le cadre de cet atelier philo-art, des œuvres de la collection seront présentées par Aurélie Stéphan, guide conférencière, et l'atelier philosophique sera animé par Myriam Mécoire de l'association L'Écume. C'est justement cette dernière que nous recevons aujourd'hui dans la quotidienne pour en savoir un peu plus sur cet événement. Et pour l'accompagner, le président de l'association L'Écume, Jean-François Berton. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que pour commencer, avant de s'intéresser à l'atelier du 4 mai prochain, on peut se pencher sur L'Écume, votre association? Vous proposez des ateliers théâtre, philosophie, vous proposez plein d'autres choses aussi. Mais est-ce qu'avant de revenir peut-être sur les missions de l'association, on peut revenir sur les origines? Comment et pourquoi vous avez monté l'association L'Écume?
Alors, l'association existe depuis 2013. On était basé sur Nîmes, on n'était pas en Bretagne. J'étais directeur d'une fédération de musique sur le Gard, en fait. À partir de là, quand la fédération s'est terminée, j'ai dit que moi j'avais plein de groupes qui avaient besoin d'aide, donc j'ai continué ce chemin pour accompagner les groupes, etc. Et donc c'est parti de là. Et puis après, se sont greffés d'autres choses, les ateliers théâtre et les ateliers philosophie.
Alors en fait, les ateliers théâtre, moi ça fait 36 ans que j'anime des ateliers théâtre. Et donc, quand on s'est rencontré avec Jeff, on s'est dit, on va essayer de mixer tout ça et de créer en fait un bébé, notre asso. Et là-dessus, se sont greffés les ateliers philo, les formations, les conférences, les interventions diverses dans le champ de la cité et de l'école. Et puis quand on est venu s'installer en Bretagne il y a 4 ans, c'était un rêve. On a lancé nos activités et j'avoue que franchement, on a reçu un accueil formidable de la part des de tout le milieu scolaire déjà, et puis de la part aussi des acteurs associatifs. Et d'ailleurs, nous sommes, L'Écume est partenaire de la Fédération d'éducation populaire Les Francas, dont je suis vice-présidente. Et nous menons pas mal d'actions en commun, parce qu'en fait, on s'appuie vraiment sur l'idée d'une éducation à la citoyenneté, à la démocratie, à la fraternité et à l'émancipation des citoyens. Donc du coup, tout ça, ça a trouvé sa cohérence.
Vous proposez, on l'a dit, à la fois des ateliers autour de la pratique du théâtre et autour de celle de la philosophie aussi. Pour vous, en quoi les deux disciplines se touchent?
Alors c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que je suis de formation professeur de lettres. Et bien évidemment, il existe des ponts et des passerelles entre la littérature et la philosophie, mais également entre le théâtre et la philosophie, la poésie, la littérature, la danse, la musique. J'ai même des collègues qui sont clowns philosophes. Donc on voit que la pratique philosophique, finalement, en tout cas celle qui est présentée par ce qu'on appelle les NPP, les nouvelles pratiques philosophiques, c'est un mouvement maintenant qui essaime dans le monde. Il y a pratiquement 80 pays qui ont rejoint. Il y a une chaire UNESCO qui a été créée en 2016. Et ces nouvelles pratiques, justement, elles ambitionnent de diffuser, de vulgariser, de démocratiser l'acte de pensée, la philosophie, et de la faire sortir un petit peu des bunkers épistémologiques universitaires, académiques. Et c'est notre mission, notre objectif, notre combat, que de permettre à tous les individus, dès lors qu'ils commencent à parler, donc dès l'âge de 3, 4, 5, 6 ans, de commencer aussi à apprendre à penser par soi-même et à développer sa pensée critique.
Avec l'association L'Écume, vous l'avez dit, vous intervenez auprès de différents publics. On va y revenir, mais vous intervenez notamment auprès d'enfants. Je vais peut-être enfoncer un peu une porte ouverte, mais moi, dans mon parcours scolaire, la philosophie, elle est arrivée en terminale, elle est arrivée très tard. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire rentrer la philosophie plus tôt dans la vie des enfants ?
Alors, très intéressant. C'est vrai qu'en France, on propose de rencontrer la philosophie, cette discipline, qu'en classe de terminale et encore lorsqu'on est en filière générale. On le sait, tous les citoyens ne vont pas jusqu'en terminale et tous ne sont pas en filière générale. Ça fait finalement très peu de monde. De plus, cette didactique-là qui est enseignée en terminale, c'est une didactique qui est plutôt basée sur un enseignement frontal, magistral, qui ressemble plus à une histoire de la philosophie vraiment qu'à une activité réflexive où tous les élèves sont mis en activité de penser par eux-mêmes. Ce qui fait que moi, je me suis simplement inspirée d'un mouvement qui est né dans les années 70 aux États-Unis avec celui qu'on appelle le père de la philosophie avec les enfants, c'est Matthew Lipman. Et puis cette méthode qu'il a mise au point parce qu'il s'était rendu compte qu'à l'université, ses étudiants manquaient d'esprit critique. Donc il a décidé de mettre au point une sorte de méthode pour faire débuter cette activité dès l'école primaire. Puis ensuite, ça s'est exporté au Canada, ça s'est exporté en Europe, en Suisse, en Belgique, c'est arrivé en France. Et aujourd'hui, il faut savoir que dans les programmes scolaires, depuis 2015, dans le cadre de l'EMC, éducation morale et civique, on doit proposer, en principe, de la grande section maternelle jusqu'au CE1, 30 minutes de débat à visée philosophique par semaine, et à partir du CE2, une heure. Bien évidemment, cela n'est pas pratiqué parce que forcément, les enseignants ne sont pas formés pendant leurs années de formation et donc ne se sentent pas aptes, ne se sentent pas légitimes. C'est bien là la question, parce qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir suivi un cursus philosophique à l'université pour pouvoir animer ce type d'intervention. C'est pour ça que moi-même, j'ai suivi un diplôme universitaire, certes, mais qui était spécialement dédié à l'animation d'ateliers avec les enfants. Et puis ensuite, je me suis encore un petit peu formée à l'Université Paris-Descartes pour un diplôme de philosophie pratique de l'éducation et de la formation. Mais il y a de très nombreux et de plus en plus d'animateurs qui viennent d'horizons très divers. Évidemment, si on n'a pas fait de cursus en philosophie, il faut quand même néanmoins, pour pouvoir garantir la qualité et la rigueur de cette pratique, travailler en amont pour être soi-même au clair avec les concepts qu'on va manipuler devant les enfants. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, les enfants ne sont pas dupes. Et ils sont vraiment demandeurs d'une exigence, d'une qualité, et qui ne s'improvise pas, c'est vrai, ils ne s'improvisent pas. Mais en tout cas, voilà, la philosophie, la pratique philosophique avec les enfants, c'est quelque chose qui me semble nécessaire si on veut rêver plus tard d'une société où les citoyens arrivés à l'âge adulte finalement aient déjà appris à penser par eux-mêmes et déjà développé des habiletés de pensée, des habitus démocratiques, des habiletés sociales, qu'ils aient déjà pris le goût pour cette activité. Et puis il faut dire aussi une chose, c'est que finalement moi, dans toutes les structures où j'interviens, je me rends compte que il y a une jubilation, un bonheur extrême des participants, quel que soit leur âge et leur origine, pour s'adonner au plaisir de penser. Parce que penser, c'est une joie. Voilà, c'est vraiment joyeux.
Vous avez déjà commencé à aborder un peu la question quand vous parlez de démocratie, de débat. Mais qu'est-ce que vous cherchez à susciter ? Qu'est-ce que vous pensez que ces ateliers philosophiques ou de théâtre philosophique ou de théâtre peuvent susciter chez les enfants ?
Déjà, ils s'aperçoivent que c'est une activité qui n'est pas réservée aux adultes, qu'à partir du moment où on parle, on commence à penser. Et penser, je leur explique que penser le monde, finalement, c'est finalement mieux le comprendre, et c'est éventuellement pouvoir le changer, s'il nous paraît insatisfaisant, s'il nous paraît trop violent, et comment finalement sortir des ténèbres de l'ignorance et de cette prison quand on ne sait pas qu'on a ce pouvoir, cette puissance de pensée, c'est en pratiquant. Et très rapidement, les enfants se sentent investis dans cette activité, donner son point de vue, argumenter, problématiser, conceptualiser. On ne s'interdit pas le recours à des contenus savants. Moi, j'ai déjà animé des ateliers sur la mort et en citant très très rapidement, par exemple, Kierkegaard, avoir des gamins de 7-8 ans me dire « Moi, je ne suis pas d'accord avec Kierkegaard », etc. Les enfants n'ont pas de complexe. Ils ont cette fameuse capacité de curiosité, cette capacité d'émerveillement et d'étonnement que les Grecs anciens appelaient le thomazein. C'est une des conditions fondamentales pour se lancer dans une investigation philosophique. Et puis, ils sont aussi très humbles par rapport, c'est vrai, à certains adultes, parce qu'ils arrivent et ils n'ont pas d'a priori pour pouvoir questionner le monde. Donc, c'est vraiment... comment dirais-je, une formation à la pensée critique, à l'esprit critique, mais c'est aussi, bien évidemment, savoir écouter l'autre, ne pas rester replié sur soi, être en capacité justement d'oser parler en son nom, en sa propre voix, d'affirmer son point de vue et d'expliquer pourquoi. Et c'est là que ce qui est intéressant, c'est que les compétences qu'on va travailler sont très très nombreuses. Et notamment, moi j'insiste beaucoup sur le développement des compétences langagières et bagage lexical. Parce qu'il faut savoir que c'est dans les mots que la pensée s'incarne. Et s'il n'y avait pas de mots, s'il n'y avait pas de langage, il n'y aurait pas de pensée. Et on voit souvent, d'ailleurs, dans les groupes où j'interviens, que souvent c'est par un manque de mots qu'on va avoir du mal à déployer une pensée de manière subtile, précise, rigoureuse. Et du coup, à force de pratiquer, les gamins étoffent un petit peu leur bagage lexical et sont de plus en plus à l'aise pour préciser leur pensée. Et ça, forcément, ça rajoute aussi à l'estime de soi, ça rajoute à la confiance en soi, oser prendre la parole devant un groupe. Donc ça sollicite de nombreuses compétences.
Vous travaillez avec des enfants, mais en fait, vous travaillez avec des publics qui sont très, très variés, justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu auprès de quel type de public vous intervenez?
J'ai envie de dire, dès qu'il y a des humains, parce que ça va varier. Je vais dans les écoles, dans les collèges, les lycées, mais je travaille par exemple à l'ITES avec des étudiants qui se destinent au métier du travail social. Ça peut être en prison avec des mineurs qui sont incarcérés. Depuis 3 ans, j'ai un partenariat très très fructueux avec le ministère de la Justice et la PJJ de Brest et de Quimper. J'interviens tous les mois avec des mineurs qui sont pris en charge. Mais je peux intervenir dans des médiathèques, dans des librairies. Alors, librairie dialogue, bon là, avec le Covid, on a dû malheureusement cesser. On va reprendre le 22 mai. Mais avec des ateliers, avec des personnes âgées, des personnes porteuses de handicap en structure médico-éducative. Je veux dire, ça peut être dans la rue, parce qu'avec les francas du Finistère, on a initié l'été dernier un dispositif qu'on a appelé « La rue est à nous ». Et pendant juillet et août, on est allé dans les rues, au pied des cités, ici à Brest, pour essayer de rencontrer des jeunes. Et on a fait des ateliers philo à l'arrache, comme ça, sous les arbres, qui se sont super bien déroulés. Ça va être aussi dans les cafés. J'interviens souvent au BH Café sur des problématiques, et des questions philosophiques qui intéressent évidemment tous les êtres humains.
Vous proposez, vous le disiez, des ateliers, mais vous proposez aussi des conférences, des interventions. Je crois que vous intervenez aussi auprès des artistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ces différentes activités, un peu nous en dire un mot?
Alors en fait, au départ, j'ai commencé par animer ce type d'atelier avec des interventions, je vous ai dit, assez éclectiques, puisque finalement on se rend compte que la société a faim de penser le monde. Et puis, face à la demande de plus en plus importante, je me suis décidée à me lancer dans la formation pour pouvoir former des personnes qui soient aptes à se lancer en autonomie elles-mêmes, puisqu'il y a une très forte demande et qu'évidemment, je ne peux pas être partout. Et donc ça, c'est la partie formation des ateliers de l'écume. Je peux former des bibliothécaires, par exemple. Je peux former des personnels enseignants, des éducateurs, des animateurs, ou tout adulte qui désire se lancer en autonomie, dans l'animation de tels ateliers. Et alors, pour la partie artistique, pour la partie théâtre, C'est vrai que j'anime depuis 36 ans maintenant des ateliers théâtre. J'ai monté plus de 200 spectacles. Le prochain, puisque celui de juin dernier a été annulé, est prévu le 11 juin à Saint-Renan, dans la salle de l'Amphi, qui est une des plus belles salles de spectacle du Finistère. Pas du tout assez exploité d'ailleurs. Et concernant le coaching d'artistes, bah, s'il y a des artistes qui ont besoin justement d'un coup de main, d'un accompagnement pour leurs prestations hein, sur scène, c'est-à-dire comment j'occupe l'espace, comment je remplis l'espace de mon énergie, comment je me déplace, comment je, enfin tout ce qui va concerner l'aspect scénique, moi je peux venir en accompagnement pour les aider et leur donner des pistes quoi.
Pour l'atelier, en tout cas, que vous animez le 4 mai prochain, il n'y a pas un public ciblé en particulier, il y a des adultes, des jeunes, peut-être des familles. Le thème, on l'a dit, c'est comment l'art peut nous aider à mieux nous connaître. Comment s'est mise en place cette collaboration avec le Musée des Beaux-Arts ?
Eh bien, le musée était intéressé par la pratique philosophique. Et puis, on avait acté des dates pour ouvrir des ateliers philo en présentiel, des ateliers familiaux avec enfants, parents, grands-parents. Puis le Covid est arrivé, donc on a été tous un peu décontenancés, et on a décidé. Par rapport à une des expos qu'ils ont actuellement sur l'art du portrait avec les photographies de Michel Terzekel et quelques autres œuvres qui sont au musée, de se lancer dans cette idée de mettre en lien la partie visite de l'expo et suivi ensuite d'un temps réflexif, d'un temps d'échange. Et là, il se trouvait que sur l'art du portrait, ça paraissait sympa de se placer dans le questionnement. Finalement, peut-on vraiment se connaître soi ? Qu'est-ce que c'est que cette connaissance de soi-même que Socrate nous invite à développer ? Et on s'est dit voilà. Donc la première partie de l'atelier, ça va être Aurélie qui va présenter les œuvres avec un diaporama évidemment puisque tout est en distanciel. Et à la suite de ça, on va partir de ces œuvres. Moi, je vais partir de ces œuvres, si vous voulez, pour déclencher le débat et la discussion. Et puis, à un moment donné, on va se détacher un petit peu justement des supports pour entrer plus profondément dans le questionnement sur sur la connaissance de soi, sur le fait que l'art, et là plus particulièrement la peinture et la photographie, peuvent être des révélateurs justement pour apprendre à mieux nous connaître, à la rencontre de nous-mêmes. Et puis après, bon, les questions, ça va être assez varié. Et puis ça, voilà, je vais m'appuyer sur quelques œuvres de Magritte parce que c'est un peintre que j'affectionne particulièrement. Et puis qui a pas mal réfléchi aussi sur la connaissance de soi à travers l'art du portrait. Bon, voilà, en gros.
C'est, on l'a dit, Aurélie Stéphan, guide conférencière, qui présentera les œuvres de la collection qui ont été sélectionnées pour cet atelier. Mais vous, comment vous les êtes un peu appropriées, ces œuvres, pour préparer justement l'atelier du 4 mai ?
En fait, c'est des œuvres qui montrent toutes des personnages. Alors, soit sous forme de portrait, soit sous forme d'autoportrait. Et je n'ai pas choisi la sélection, mais je me suis inspirée de la sélection pour essayer justement de montrer que les artistes, à travers leur création, sont dans la même démarche que n'importe quel individu quand il va chercher à comprendre d'abord qui il est et peut-être aussi pour mieux comprendre les autres. Ou pas. Et d'ailleurs, la question philosophique, parce que l'idée, c'est quand même de ne pas partir sur des préjugés ou influencer justement la pensée des participants. Est-il souhaitable aussi de bien se connaître ? Est-ce que certaines fois, ça peut aussi réveiller de la souffrance ? Bon, après, ce sont les participants qui construisent le débat. Et que moi, je suis avec mon plan de discussion, certes, préalablement construit, mais avec lesquels je vais rester très souple et je vais me laisser guider en fait par le cheminement que va prendre la discussion à visée philosophique. Ouais.
Est-ce qu'il y a une œuvre parmi cette sélection qui vous a touché particulièrement ?
J'aime beaucoup les photographies de Michel Terzekel, notamment La jeune fille avec ses taches de rousseur et celle qui le représente aussi, d'ailleurs. Je les trouve puissantes hein, au niveau de ce qu'elles dégagent. Mais finalement, même les autres œuvres que Stéphane, que Aurélie a sélectionnées avec Mathilde Pigalet, la responsable du musée des Beaux-Arts, toutes les œuvres nous disent quelque chose de nous-mêmes, de l'artiste et du monde.
Il y aura certainement de très nombreuses pistes de réflexion développées le 4 mai prochain dans le cadre de l'atelier en ligne. Mais je résiste quand même pas à vous poser la question, Myriam Mécouard. Comment l'art peut-il nous aider à mieux nous connaître? Si vous pouviez répondre à cette question-là pendant cette interview.
Question piège. Moi, je partirais peut-être de cette œuvre magistrale et littéraire, Madame Bovary, de Flaubert. Et que nous dit Flaubert? Il nous dit Madame Bovary, c'est moi, c'est vous, c'est nous tous finalement. Quelque part, c'est quoi l'art sinon justement un révélateur? À travers nos lectures, à travers les peintures, à travers l'architecture, la sculpture, la musique, la danse. On parle de quoi? On parle de nous. Hein, c'est un petit peu en fait le rôle qu'avaient les récits mythologiques autrefois, d'essayer de nous apprendre à comprendre les énigmes et les mystères de ce monde, les mystères des mécanismes humains, de la relation qu'on a à soi, qu'on a aux autres, et après la forme artistique que va prendre la question importe peu finalement. Chacun va trouver avec sa sensibilité un miroir finalement dans les œuvres. Pourquoi telle œuvre nous touche plus qu'une autre? Pourquoi certaines œuvres nous dérangent? Tout cela, ça fait partie justement de cette réflexion qu'on peut avoir. Mais en fait, pour avoir cette réflexion, c'est sûr que ce n'est pas inné chez l'individu. Ça se doit d'être travaillé comme l'éducation au goût, comme l'éducation à la musique. Et donc, à travers les ateliers de pratique philosophique, ce qu'on essaye de faire, nous, les philosophes praticiens, c'est justement d'éduquer à cette disposition de l'esprit à prendre confiance en soi pour oser penser le monde et le dire.
Tout à l'heure, je vous parlais de la sélection du Musée des Beaux-Arts, mais est-ce que vous, dans votre vie, à un moment donné, il y a une œuvre justement qui vous a touché, que vous considérez qui vous a peut-être appris à vous connaître?
Une seule œuvre, vous voulez, ou un artiste?
Ça peut être le travail d'un artiste.
J'aime beaucoup le travail de Magritte, comme je vous le disais, de Gustav Klimt aussi. J'aime beaucoup Renoir, j'aime beaucoup... Donc en peinture, ça va être un petit peu... j'aime beaucoup Clovis Trouille, je ne sais pas si vous connaissez, bon bah voilà. Ce sont à peu près les univers qui me parlent. Dali aussi, j'aime beaucoup... Mais je dirais que c'est plutôt des œuvres littéraires moi qui m'ont
Lesquelles par exemple?
Toute la littérature du 19e particulièrement avec Stendhal, Balzac, Flaubert, Maupassant et Victor Hugo. Après les œuvres sont innombrables mais c'est vrai qu'il y a des romans qui nous marquent et qui nous forgent, ouais.
J'ai une dernière question à vous poser. On vit une situation très particulière tous en ce moment, depuis un an et demi maintenant quasiment. Comment vous pensez que ce type d'atelier, ou plus généralement que la philosophie en fait, peut nous aider à traverser cette période si particulière?
Moi je constate, d'ailleurs je tiens à préciser que l'atelier du 4 mai est complet. Il a été complet très très rapidement. On a même élargi la jauge, on avait pensé à 20 participants, on en est à 40. Il y a encore du monde sur liste d'attente. Moi, je vois à travers l'engouement hein, en Bretagne, mais pas que. Hein, je reçois des sollicitations d'un peu partout. Il y a un appétit de la part de la société à discuter, à échanger, et pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et donc, la philosophie, ça peut venir vraiment pour essayer de prendre de la distance, de mieux comprendre ce qui nous arrive, de le vivre en conscience finalement, de conscientiser, parce que tout ce qu'on est en train de traverser là pose des vraies questions sociétales sur quelle place voulons-nous laisser par exemple au tout hygiéniste, au tout sanitaire, que penser hein, de nos libertés? Est-ce que nos libertés doivent être réprimées au nom de la santé ou de la sécurité? Non, il y a vraiment un questionnement sur l'utilisation justement du télétravail. Nous avons malheureusement beaucoup dû basculer nos ateliers en visio. Alors certes, c'est vrai que ça permet à des gens qui ne pourraient pas se payer le train ou qui seraient en fauteuil roulant de pouvoir y participer. Mais enfin, ça quand même, ça ampute énormément les échanges, puisque on le sait, il n'y a pas que l'esprit qui participe quand on est en atelier de philosophie. Il y a le corps aussi, il y a ce qu'on appelle le non-verbal. Et ça, c'est vraiment, on le sent, c'est vraiment, on commence vraiment à en voir les limites, quoi. Il y a vraiment une attente, une impatience à se retrouver tous ensemble, quoi.
Sans parler des problèmes techniques.
Oui, des couacs et des connexions.
Ouais. On l'a dit, l'atelier du 4 mai prochain, il est complet, malheureusement. Donc, les auditeurs qui vont nous écouter seront peut-être un petit peu déçus. Mais justement, est-ce que vous pensez alors qu'il y en aura d'autres avec le Musée des Beaux-Arts? Et si jamais nos auditeurs sont intéressés par les ateliers de philosophie, où on peut vous trouver?
Alors, écoutez, je pense qu'il y en aura d'autres parce que le partenariat se passe super bien avec Mathilde et Pigalet, la responsable du musée, et Aurélie, la guide conférencière. Il n'y a pas de raison. Il faut aller sur le site de l'Écume, de l'association L'Écume, sur le site et la page Facebook de l'Écume et du musée des Beaux-Arts. Il y a pas mal de supports, en fait. Après, tous les autres supports, je les maîtrise pas, Twitter, etc. J'y vais pas trop, moi, mais je pense que le musée doit certainement avoir une page Twitter, etc. Enfin, je
oui.
pense.
Oui, voilà. Facebook, je pense aussi, ouais.
En tout cas, Facebook, moi, j'y suis. La page Facebook de l'Écume, les ateliers philo, le site Internet. N'hésitez pas à le visiter. Et il y aura aussi, je pense, d'autres ateliers qui seront peut-être pas avec le musée, mais qui seront peut-être au Beige Café, parce que on en a annulé plein, du coup. Voilà.
On espère qu'avec la réouverture prochaine des bars, des restaurants, des salles de spectacle et des musées, on puisse assister à vos ateliers en présentiel.
Ça serait vraiment génial. Ouais.
T'es pas Plougastel, ton panier.
Ah oui, ouais. Si, bon, courant mai, j'ai aussi un atelier avec la médiathèque de Plougastel qui, les coquines, pour essayer un petit peu de contourner toutes ces restrictions, puisque les médiathèques n'ont plus le droit d'accueillir du public, on va animer un atelier, je vais animer un atelier philo, un café philo, dans une chapelle. Et c'est à Plougastel, et ça va, alors, en principe, dans la chapelle. Moi, j'ai jamais fait ça dans une chapelle, donc ça va être marrant. Et au pire, dehors, s'il fait beau, voilà. Bien sûr, en respectant les mesures barrières et compagnie. Et le thème sera c'est quoi la nature? Pourquoi devrions-nous la protéger? Voilà.
Très bien. Bah, en tout cas, si jamais on veut, voilà, les dates, j'imagine que ce sera disponible sur votre page Facebook.
Oui.
Vous communiquerez dessus.
Voilà.
Ok, très bien. Merci à tous les deux, Jean-François Berton, Myriam Mécouard, merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci beaucoup à toi, Morgane.
On le rappelle donc, comment l'art peut-il nous aider à mieux nous connaître? C'est le thème du prochain atelier en ligne que propose le Musée des Beaux-Arts le 4 mai prochain, dans le cadre de cet atelier Philo-Art, Art et Connaissance de Soi. Des œuvres de la collection seront présentées par Aurélie Stéphan, guide conférencière, et l'atelier philosophique sera animé par Myriam Mécouard de l'association L'Écume. Vous pouvez retrouver toutes les informations liées à l'association sur leur site.
Et s'il y en a un que l'art a aidé à mieux se connaître, c'est bien le Brestois Peter Love que vous entendez régulièrement sur notre antenne, c'est-à-dire sur le 101.1 de Radio U. Je vous propose son titre « Le mur » qui est extrait de son dernier EP qui s'appelle « Upsy ».
De la ville pour te voir, shooter en voiture. Je ferai tout, tout pour revoir ce que je détestais sur ton mur. Je laisse rien sauf les trous et quelques paillettes collées au plancher par tes choses. Je dois rien à personne après tout. J'apaiserai ma tête après coup. Je me sens si bien près de ce mur. J'ai mis du temps à rêver. Je dois en voir d'autres pour être sûr. C'est bien celui-là que je dois aimer. Je me sens si bien près de ce mur. J'ai mis du temps à rêver. Je dois en voir d'autres pour être sûr. C'est bien celui-là que je dois aimer.
Le mur, un titre de Peter Love que vous pouvez retrouver dans la playlist du mois des découvertes musicales de Radio U. C'est à retrouver sur YouTube et sur notre site internet radio-u.org. Il y a des initiatives et associations qui durent dans le temps et c'est tant mieux. Nous vous proposons un reportage réalisé en 2018 déjà sur l'association La Pince. Malgré la crise sanitaire, l'association est toujours debout et propose toujours des rendez-vous que vous pouvez retrouver sur leur site internet et leurs réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram.
6 rue Monseigneur Gravrin.
Bonjour.
Bonjour.
Bah alors moi c'est Hélène, donc bah je m'occupe de tout ce qui est art plastique, enfin entre autres voilà, de l'association La Pince. C'est une association qui a maintenant 5 ans, enfin c'est la 5e année. C'est une association qui est née d'une envie de créer un lieu en fait dans lequel on pourrait réunir un projet lié au textile, à la récupération de textile, à une remise en circuit court. C'est un projet assez complexe finalement parce que ça c'est un peu comme une pieuvre. Il y a pas mal d'entrées et de sorties. Enfin voilà, on peut connaître La Pince sous plein de visages différents, enfin par plein d'entrées différentes.
Comment fonctionne l'association du coup? Il y a des bénévoles, des salariés?
Bah là on est 3 salariés et puis on essaie de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'adhérents à La Pince et qu'il y ait de plus en plus de gens qui participent aux activités. Et voilà, bon c'est un travail un peu tous les jours, mais ça va, c'est bien, ça, on a de plus en plus d'adhérents et on espère vraiment qu'il y aura vraiment de plus en plus de gens qui vont participer aux activités de La Pince, qu'il n'y ait pas que les salariés qui fassent les choses.
Comment vous vous organisez du coup pour travailler ici?
Ben en fait, on est chacune sur des projets différents. Moi, par exemple, là, je prépare mon sac pour aller à la maison d'arrêt parce que je fais des ateliers là-bas avec les quartiers mineurs et les adultes. Ben, régulièrement, je suis à l'extérieur. Ariane aussi, ben, elle était aussi sur des projets liés au textile, des fois à l'extérieur aussi. Amélie aussi sur d'autres projets. Et en fait, ben, sinon, après, on a des temps d'ouverture de la friperie pendant lesquels on doit être présent du coup. Et puis ensuite, ben, on se répartit un peu la com. On se répartit un peu beaucoup de choses, les appels à projets aussi, remplir des dossiers, des demandes de subventions. Et voilà, après il y a tout ce qui est administratif aussi. Enfin, on se répartit un peu les tâches chacune.
Donc, on peut venir acheter des vêtements ou en déposer ici, c'est
ça ? Ouais, voilà, ouais. Acheter des vêtements, bah, des prix vraiment très peu chers. Et puis oui, surtout apporter des habits. Et comme ça, nous, on fait un tri, on redonne à d'autres associations et on remet une partie en boutique et on fait un bon d'achat de, pour un kilo, un euro. C'est histoire de faire un petit échange avec les gens. Et puis, ça permet d'avoir une ouverture sur l'extérieur, ouais, que les gens viennent, enfin, que tous les publics soient touchés. Et on donne après, du coup, une seconde vie aux vêtements. Et chaussures et accessoires qu'on nous apporte. Ça peut arriver qu'on nettoie aussi des, si jamais on a récupère des vêtements vraiment super chouettes et qu'on se dit oh, quand même c'est con, il y a une tache, on va essayer de le récupérer, mais sinon voilà.
Vous réparez des fois aussi?
Oui, oui, ça arrive, ouais, tout à fait. Oui, 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 s'il manque des boutons, mais qu'on trouve que c'est hyper chouette, parce que comme on a plein, on a toute une mercerie, et oui, on peut recoudre aussi. Si ça vaut vraiment la peine, ouais, on fait ça des fois, ouais.
C'est un petit peu nouvelle, tu sais, genre. Je déballe des cadeaux à chaque fois. Bon, des fois, c'est des mauvais cadeaux. Hein, mais... des fois, on a des mauvaises surprises. Ouais. Ce qu'on garde pour les mecs, c'est les t-shirts. Bon, ça, tu vois, t-shirts de pute.
Bah, moi, c'est Amélie. Moi, je suis à La Pente depuis bientôt 2 ans. Et moi, j'ai été embauchée en tant qu'animatrice de vie associative, justement sur toute la question de comment faire vivre le lieu autrement qu'avec les employés, quoi. Aussi sur les questions, sur les animations extérieures et justement la tenue et l'organisation de la fripe, quoi. Alors moi, je fais du tri là parce que hier, on a des gens qui nous ont déposé des vêtements. Parce que la friperie, elle est alimentée comme ça, en fait. C'est des arrivages, du don ou des choses comme ça. Et on a eu pas mal de trucs. Donc, du coup, je trie pour mettre en rayon une partie. Après, ce qu'on garde pas, qui est en bon état, on le file à d'autres assos qui ont des vestiaires aussi ou des petits, ouais, qui font une, qui organisent des braderies une fois de temps en temps. Et ce qui est taché usé, on le recycle avec Abby 29. Et Abby 29 passe tout à l'heure, donc je remplis les sacs avant qu'ils arrivent, quoi. Voilà.
Et comment tu choisis les habits qui vont être mis en friperie ?
C'est un peu subjectif, hein.
Ouais, c'est assez subjectif. Tu vois, par exemple, comme je disais tout à l'heure, là, quand il y a des adhérents qui viennent utiliser l'espace et que moi je suis en train de faire du tri, bah ils participent aussi avec moi, quoi. Je dis bon, allez, venez me filer un coup de main, ça va être marrant. Des fois, parce que des fois il y a des trucs un peu drôles, quoi, qui arrivent. Et on sait que on a une sorte de ligne, un peu de une ligne directive du style qu'il va y avoir. Donc on sait qu'on aura du rétro, des pièces un peu qui sortent du commun, quoi. Dès que c'est pas commun, on pense à le mettre en rayon, même si parfois c'est un peu du mauvais goût, c'est quand même marrant, quoi. Bon, je regarde la couleur. Donc là, tu vois, un pantalon rouge, c'est pas trop mal. Là, le printemps va arriver, c'est somewhere, c'est. Donc, du coup, je me dis, bon, un petit pantalon somewhere rouge, c'est pas vintage, mais c'est un truc qui peut bien plaire, quoi. Puis après, il y a des trucs qui sont vraiment. Moi, personnellement, je bannis un peu, par exemple, cache-cache, par exemple. Moi, je sais que perso, j'aime pas trop mettre des trucs cache-cache en rayon, tu vois. Je suis là. Les fringues qu'on nous apporte, c'est pas toujours des vieux. Des fringues des années 80, quoi. Donc, on fait aussi avec des fringues actuelles. Ariane, du coup, elle est couturière, quoi. Elle est costumière, quoi. Donc, c'est elle qui s'occupe de la partie couture. Et c'est elle qui... avant, elle faisait des créations. Elle faisait des customisations, des créations occasionnellement. Et aujourd'hui, on le fait plus, quoi. On le fait plus. Il n'y a pas le temps, quoi.
Yes. L'année dernière, on faisait la photo de la semaine. Comment on appelait ça ? La tenue de la semaine, voilà. Donc c'était chaque semaine, on conviait, alors c'était des adhérents, des clients de la boutique, voilà, qui venaient, qui prenaient, qui se composaient une tenue, on allait se prendre en photo, on a repéré un petit coin sympa dans la rue, et donc voilà, c'était un peu le rendez-vous le mercredi après-midi. Voilà, on aimerait bien relancer ça.
Il y a aussi la question de la création qui coexiste avec la fripe vraiment pas chère, parce qu'on a baissé nos prix il y a 2 ans de ça maintenant. Et avant, le prix de la création et le prix des fringues, c'était pas... Enfin, des fois, les gens, ils disaient, bah, comment ça se fait que les jupes sont à 6 euros et que finalement, celle-là, elle est à 12, quoi, tu vois. Comment ça se fait qu'elle est le double, quoi.
On a eu, genre, des robes à 40 balles, à côté des robes à 10 balles. Et en fait, même 40 euros, c'est rien quand t'as passé ta journée à retravailler parce que finalement, c'était vraiment un truc qu'on avait envie de faire au début, d'avoir un rayon. On avait un rayon au début avec des choses, mais c'était des choses qu'on avait fait avant de monter l'assaut déjà. Tu te rends compte quand tu te mets à travailler comme ça que c'est un vrai boulot de créateur, c'est un vrai boulot de couturier même, parce que t'as besoin d'avoir, si tu vends quelque chose, faut qu'il ait des belles finitions. Donc tu vas pas faire des trucs à l'arrache. Enfin, moi perso, j'ai pas envie de faire des trucs à l'arrache. Quoi. Ça nécessite du temps, ce temps, faut réussir à le financer. Donc ça veut dire qu'il faut trouver, ou en tout cas des manières de vendre, ou enfin voilà. Et en fait, ça allait plus avec le projet.
Marcel, est-ce que tu penses que ça peut refaire, ça peut remarcher pour printemps été? Allez, pourquoi pas. Ah, ça c'est un peu cool. Tu vois, ça change du t-shirt gris ou bleu, quoi.
Nous, on a choisi plutôt d'encourager les gens à faire les choses par eux-mêmes, que l'atelier soit pas forcément un atelier de créateurs professionnels, tout ça, mais que ce soit plutôt des amateurs, des gens qui se mettent à faire de la couture, des arts plastiques. Que nous, on n'est pas les créateurs qui proposons une ligne, quoi. Voilà.
Il y a les ateliers hebdomadaires couture modélisme le mardi jeudi pour adultes enfants. Maintenant il y a de plus en plus d'enfants en fait qui viennent, mais peut-être Ariane va faire un autre créneau pour les enfants, parce que comme c'est en fin de journée, des fois c'est un peu fatigant pour eux. Et moi je fais atelier d'art plastique, enfin plutôt gravure en fait, une fois par mois, et où il y a vraiment de plus en plus de monde. Et puis aquarelle aussi, je commence à proposer ça, mais je proposerai aussi d'autres techniques petit à petit, voilà.
Ah, oui, la composition est très belle.
Exposition.
Ah, c'est cool. Ouais. Bah, il y a un petit peu de.
Ouais, il y a trop de
blanc. Ouais.
T'as une formation en art plastique, du coup?
Oui, j'ai une licence d'art plastique. Voilà. Après, j'ai fait une formation en art thérapie pendant 2 ans, et j'ai fait une formation au jeu de peintre d'Arnaud Stern aussi. C'est une formation particulière, enfin vraiment très chouette. Une pratique vraiment super intéressante d'un vieux monsieur maintenant. Et sinon, j'ai appris en faisant, en fait, avec le temps, du coup, parce que là, ça fait longtemps que ma licence, j'ai eu ma licence, quoi.
C'est un monsieur qui cherche une petite radio qui fonctionne à pile, une lampe à dynamo ou à pile.
Ah ouais, mais c'est roulage, ouais.
Bah, je sais pas.
La société de consommation nous pousse à vraiment consommer trop, jeter, gaspiller. Du coup, nous, on se dit, c'est bien que les vêtements aient une seconde vie. Il y a des gens qui manquent de choses, d'autres qui en ont trop. Du coup, c'est un partage aussi. Ça permet, oui, de remettre en circuit court. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup. Enfin, il y a beaucoup d'idées, oui, derrière tout ça. Puis on fait partie de l'économie sociale et solidaire. Donc, on a toujours été engagé dans cet esprit-là, quoi.
Et donc, vous travaillez avec d'autres structures ou d'autres assos sur Brest ?
On fait partie d'un collectif, le lieu dit, donc qui travaille avec pas mal d'associations différentes, BAPAV, un peu d'air, Vers le Jardin, Sémaphore. Après, il y en a un peu d'autres que j'ai un peu oubliées là, mais. Et puis on travaille avec le PL Guérin, on travaille avec des structures du quartier de Saint-Martin, puis on travaille avec la ville de Brest, du coup avec des quartiers aussi rive droite. On travaille avec l'IME Jean Perrin et Planète Loisirs sur des projets, un projet qu'on a d'atelier d'art plastique le mercredi qui invite les enfants handicapés et non handicapés à faire des arts plastiques ensemble. Et on travaille avec la maison d'arrêt. Moi ça fait longtemps que je travaille avec la maison d'arrêt, d'abord avec le boulon, la recyclerie et le boulon, puis avec la pince. Donc on avait envie vraiment de continuer cette action-là avec la pince. Enfin, en fait, on essaie de travailler avec tous les quartiers de Brest, petit à petit, et tous les publics mélangés.
Bien plus qu'une simple friperie, au final, quand on arrive ici, oui, voilà. Il y a un véritable aspect social, en fait, derrière.
Ouais, c'est exactement ça, ouais.
Voilà. Donc avec cette association, on développe des compétences en com, en administratif, en comptabilité, en animation, en accueil du public, etc. C'est bien, hein. On a tous des parcours différents.
Et... On se retrouve aujourd'hui avec des gens qui n'ont jamais fait de couture et qui viennent bidouiller. On leur a montré comment fonctionne la machine, parce que c'est ce qu'on fait de base dès que quelqu'un adhère et qui veut utiliser le matériel. C'est un étudiant, il est en deuxième année géologie, et une fois de temps en temps, après les cours, il vient,
il vient bidouiller sur les machines. Il fait souvent des, l'année dernière, il a commencé pour, en faisant des cadeaux pour ses copains, tu vois. Il s'est dit, ouais, je vais faire une petite blague à tabac pour mon pote et tout, ouais. Et puis il vient et il fait ça complètement à l'arrache. Il a jamais eu de leçon de cours. Il s'est juste se servir de la machine et il bidouille à l'intuition, quoi. Et puis, bah là, ça fait 2 ans qu'il est adhérent et, bah, je trouve qu'il fait des progrès, mine de rien, par lui-même. Ça a l'aspect d'une boutique, mais je pense que ça se voit que c'en est pas une standard. Il y a le rayon mec et le rayon nana. Bon, c'est séparé en deux. Mec à gauche et nana à droite. Avec les petits portants, là, on a des portants en rondin de bois, suspendus. Il n'y a aucun frein qui est pareil. On n'a que des vieux cintres, quasiment. C'est que du cintre de récup. Personne sait comment s'en servir, les cintres de pantalon, là. On a construit le meuble de mercerie là-bas qu'on voit au fond. C'est Ariane qui l'a dessiné, qui l'a imaginé. On a été acheter des planches et pendant... On a mis combien de temps, Ariane, à faire le meuble ?
4 jours.
4 jours, ouais. 4 jours avec, ouais, avec l'aide du père d'Ariane, d'ailleurs. Il y en a encore là-haut, parce qu'en fait, là, tu vois pas, mais il y a un petit bureau là-haut. En fait, on descend l'échelle et il y a un petit bureau là-haut. Pareil, il y a toute notre réserve de... Enfin, là, du coup, il y a la nouvelle collection, il y a 2 caisses qui sont là-haut, il y a la réserve de laine, il y a tout ce qui est un peu administratif et tout qu'on met là-haut aussi. Il y a le super radiateur là pour l'hiver, il fait un bruit de ouf, d'ailleurs je sais même pas, il est pas allumé. On peut penser à l'allumer parce que sinon il va faire un petit peu froid, tu vas voir. Ah, voilà. Ça fait le bruit que t'entends quand tu rentres dans la fin à 13h et tu viens. C'est pas mal, ça couvre le bruit de la radio même en fait.
Et vous pouvez retrouver ce reportage sur le guide sonore des territoires murmures au pluriel.org, dont Radio U est un des acteurs principaux. Pour plus d'informations sur les rendez-vous de la Pince, vous pouvez consulter leur Facebook, leur Instagram ou leur site internet. Vous êtes toujours à l'écoute de C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale de Radio U sur le 101.1. Vous venez d'entendre le titre Weleli, un titre d'Afrodélique que vous pouvez retrouver dans la playlist du mois. Comme le titre précédent que je vous ai passé, Le Mur, c'était Peter Love. Tout ça, c'est dans la playlist du mois des découvertes musicales de Radio U qui est concoctée par Vincent, notre programmateur musical et technicien. Tout de suite, direction Augan, dans le cadre de la série de reportages L'Alimentation Autrement, pour un portrait à 360 degrés de la coopérative du Champ Commun. Le Champ Commun est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, ce commerce multi-activité, multi-service de proximité installé à Augan, dans le Morbihan, depuis 2009, et regroupant une épicerie, un bar, une auberge, une cantine, une microbrasserie, un relais postal et une partie SMH, c'est-à-dire formation et accompagnement de porteurs de projets, eh bien tout ça démontre au quotidien qu'une économie fondée sur des unités toujours plus grosses n'est pas une fatalité. Pour cela, le Champ Commun mobilise des citoyens directement pour le maintien de leur commerce et prouve par son action et son lien avec les producteurs locaux qu'il est possible d'initier des cercles vertueux sur le territoire et de créer proportionnellement plus d'emplois et de services de qualité que la grande distribution, et d'autant plus quand on parle de transition alimentaire. Eh bien, Timbre FM est allé à la rencontre de ces irréductibles Auganais et Auganaises et de leurs partenaires alimentaires.
Je sais même plus comment je faisais avant pour consommer, en fait. Je sais même pas ce que je consommais.
L'alimentation.
C'est un choix, c'est vraiment un choix de venir ici.
Autrement.
C'est un endroit où on aime venir, voilà, en plus.
Transition écologique. Alimentation locale en interaction avec les producteurs locaux, se réapproprier l'alimentation locale, la dimension autonomie de l'alimentation.
L'alimentation autrement, une collection de reportages à la rencontre des acteurs et actrices de l'alimentation saine et durable en Bretagne.
Malgré les nombreux messages des pouvoirs publics incitant à manger mieux, les habitudes prises depuis les années 50 ont la vie dure. La perte de près de 100 millions d'hectares de forêt en 20 ans, l'utilisation à outrance de pesticides, le système alimentaire actuel qui produit un tiers des émissions de gaz à effet de serre, tout cela contribue non seulement à la dégradation de l'environnement, mais aussi à l'augmentation des inégalités sociales et des problèmes liés à l'alimentation. Heureusement, des milliers d'initiatives au niveau mondial se mettent en place pour proposer d'autres alternatives. Le Champ Commun, commerce coopératif de proximité, installé à Augan, dans le Morbihan, fait partie de ces initiatives. On y retrouve une épicerie, un bar, une auberge, une cantine, une microbrasserie, une programmation culturelle et une envie de transmission, de formation et d'essaimage.
Je m'appelle Mathieu, je fais partie de l'équipe du Champ Commun, je suis fondateur du lieu qui existe depuis maintenant une dizaine d'années. En quelques mots, c'est un commerce de proximité coopératif. Une coopérative de territoire, on pourrait dire même, qui a pour objectif de maintenir le commerce de proximité en milieu rural et le faire sur un principe fondateur important, c'est-à-dire que ça soit une entreprise qui appartienne aux citoyens. Donc c'est une entreprise citoyenne, en fait.
Bonjour, je m'appelle David, j'ai 47 ans depuis 3 jours. Le Champ Commun, c'est quoi pour moi? C'est un lieu merveilleux auquel je participe. Je suis associé du Champ Commun et je trouve que c'est une nouvelle façon de faire du commerce. Il y a un vrai travail pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà, et c'est ça qui est évidemment appréciable et qui, à mon avis, représente l'avenir de notre monde perdu. Du vrai commerce de proximité, avec une vraie réflexion sur les prix, sur le public que l'on touche, et de manière à pouvoir rémunérer tout le monde à peu près correctement, mais sans pratiquer des prix indécents sous prétexte que c'est un petit commerce de proximité. Faire travailler les producteurs, faire cet effort de ne pas acheter qu'à une centrale ou deux centrales, de faire du commerce avec du respect et surtout de l'amour.
Bonjour, moi je m'appelle Guénaël Launay, maire de la commune d'Augan. Donc le Champ Commun est un projet créé en 2009 sur la commune d'Augan. Donc c'est vrai qu'on commence à avoir un peu de recul par rapport à l'utilité puis à l'intérêt d'avoir un projet comme le Champ Commun sur une commune rurale comme la commune d'Augan. 1600 habitants qui n'avaient plus de commerce, en tout cas qui permettaient à un bon nombre de gens de faire des courses ici sur place plutôt que de se déplacer à Guerre ou Pleurmel ou ailleurs. Et ça rend un vrai service à la population localement sur l'alimentation et puis de tout ce qui est dynamique culturelle autour du bar coopératif.
Et à partir de ce principe-là, tout se construit ensemble en essayant toujours de réfléchir sur c'est quoi les produits qu'on veut avoir dans notre épicerie, c'est quoi le soutien qu'on veut apporter à ceux qui le produisent, donc à qui on achète et au final pourquoi on achète à ces gens-là. en imaginant toujours que la nourriture que ça représente pour les uns et pour les autres soit un facteur de bien-être, autant pour ceux que ça fait vivre directement parce qu'on vient acheter chez eux, que parce qu'ils les produisent, que parce qu'on finit par les manger chez nous.
Émilie, donc client du Champ Commun, régulière, très régulière, je fais mes courses principalement ici. Le Champ Commun, pour moi, c'est un endroit où on retrouve facilement, on va dire, des producteurs locaux. Pour moi, ce qui résonne, c'est le local.
Moi, dans mon quotidien, on fait l'essentiel de nos courses ici. Pour certaines choses, il y a un léger surcoût, mais qu'on accepte de payer parce qu'on sait qu'on rémunère des gens et pas ces gros. C'est pas les gens de chez Carrefour ou de chez Leclerc.
Bonjour, donc Dominique Bourdon. J'ai une activité aujourd'hui de boulange paysanne sur la commune de Tréal. Donc, je produis de la farine, du pain, un peu de lentilles et des céréales pour des éleveurs, principalement en vente directe, mais j'ai aussi de la remise un peu indirecte par le biais d'épiceries, dont le Champ Commun, qui commercialise mon pain, mes farines, la lentille, depuis quelques années maintenant. J'ai deux sujets qui me tiennent à cœur. Le premier, ça va être la réduction des énergies consommées. Et donc, sur ma ferme, j'ai choisi de promotionner la traction animale depuis 1992 maintenant. Et parallèlement, je fais de la formation, principalement à la découverte de la traction animale, et donc avec des chevaux et avec des ânes, pour aider des personnes à mettre en place les animaux de travail au sein de leur ferme, quoi. On parle d'énergie renouvelable, mais il faut avoir une vision au niveau mondial, hein, pas au niveau franco-français, cocorico. Hein, parce qu'effectivement, si on regarde que notre nombril, on peut s'en sortir, mais au détriment des autres. C'est intéressant de continuer la recherche dans ces domaines. Il faut se rappeler qu'au niveau mondial, la traction motorisée, c'est 3% des agriculteurs au niveau mondial. Hein. Notre problème sociétal, il est sur le partage. Hein. Quand est-ce qu'on voudra bien partager, hein.
Ce reportage a été réalisé par la Corlab, en partenariat avec la Maison de la Consommation et de l'Environnement et la Confédération Bretagne Environnement Nature. Avec le soutien de l'ADEME, la DRAF Bretagne et l'Agence Régionale de Santé.
Et ce reportage était signé de Loïc de Timbre FM. Merci à tous de nous avoir écoutés. Cette émission touche à sa fin. Merci à Myriam Mécoire et Jean-François Berton de l'association L'Écume d'avoir répondu aux questions de Morgane. Merci à Emeline Huguin pour son reportage qui est d'ailleurs toujours disponible sur la plateforme murmure.org. À suivre, les sportifs du lundi débarquent sur les ondes. Ce sera à 19h d'ici 3 minutes. Bonne soirée à tous à l'écoute de Radio U.